بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الحضور في مثل هذه المجالس يكون بفضل الله سبب بركة وسبب نزول الملائكة والسكينة. فندعو الله تعالى ألا يحرمنا هذا الأجر الكريم، ثم نقوم مغفورا له إن شاء مغفورا لنا إن شاء الله من عند ربنا الكريم الرحيم. الموضوع الذي أعطانا الإخوان هو مصطلح الحديث، ولي في رأي أنه قبل أن نخوض في أول ما يعرف في مصطلح الحديث، المجلس يجمع بين طلبة العلم الذين يعنيهم أو تعنيهم مصطلحات العلوم، وهناك إخوان قد يحتاجون ما يتعلق بالحديث غير مصطلح الحديث. فأريد أن أبدأ حديثي وكلامي ببيان أهمية السنة مختصرا. والسنة عامة في الحقيقة تطلق على كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاء ذكر السنة مع الكتاب فمعناه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دون أو فوق غير ما جاء في كتاب الله تعالى. ونؤكد أن كليهما وحي من الله تبارك وتعالى.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. Donc le chef a dit, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être réuni dans le meilleur endroit sur terre, qui sont les mosquées, dans une des meilleures assises, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé la bonne nouvelle, que c'est des assises où il y a les anges, et qu'à la fin de cette assise, on se lève et nos péchés sont pardonnés. Et Allah ta'ala nous évoque dans un groupe meilleur que ce groupe-ci. Le sujet qu'on va traiter, c'est le sujet de Mustalah al-Hadith, la terminologie du Hadith. Cette science, je sais qu'ici dans l'assise, il y a des gens du commun et des étudiants dans la science. Et c'est vrai que la science de la terminologie du Hadith, elle est plus spécifiquement pour les étudiants. Donc c'est pour cela que je vais, avant cela, faire une introduction pour parler de l'importance de la Sunna en général et du Hadith. Il a dit, quand on dit la sunna, en général, c'est tout ce qui est le chemin, en fait, que l'on suit, que ce soit le Coran ou la sunna. Mais précisément, là, la sunna, c'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en général. Et les deux, que ce soit le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les deux sont une révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Wa yambaghi an nu'min lasna ka ulaika alladhina يشككون في كون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في الدين. يجب علينا أن نؤمن خلافهم بأن الحديث هو أصل من أصول الدين مع كتاب الله تعالى، لا نقول بعد كتاب الله، مع كتاب الله وفي سنة رسول الله زيادة على ما في كتاب الله. يجب على المسلمين الإيمان بهذه الزيادة والعمل بمقتضاها. نعم.
Et il faut appuyer, barakallahu fikum, que le hadith, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, est une base dans la religion sur quoi on s'appuie avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue avec des suppléments qui ne sont pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les deux sont une base sur lesquelles on s'appuie.
Wa yajibu an nu'min bi anna al-hadith bayanun li kitabillah. Limadha nu'min? Li'anna Allah ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. ثم قال أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس فنزل الله القرآن وهو حافظ للقرآن كذلك قال عليك بيان هذا القرآن عن طريق وحي آخر وهو ما يسمونه غير متلو. غير متلو معناه لا يتلى في كتاب الله في الصلاة فقط، أما أنه إذا تلا إنسان حديث رسول الله تلاوة يمر عليه مرورا فهذا إذن له فيه أجر وقد أمر الله عز وجل بتلاوة الحديث مع تلاوة القرآن أيضا قال الله تعالى للنساء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ما هي الآية
من الكتاب والحكمة
من كتاب الله والحكمة فالتلاوة أمر بها لكتاب الله كذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذه الآية الكريمة تأكيد مذاكرة وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
Le hadith, Allah tabaraka wa ta'ala, il a voulu qu'avec le hadith vient en temps pour expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Et comme nous croyons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, c'est nous qui avons certes fait descendre ou révéler le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le protéger. Le rappel ici, il concerne le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce ne sont pas comme les gens qui ont des doutes ou qui mettent en doute que la Sunna est une base sur laquelle on s'appuie et qui est une révélation aussi d'Allah tabarak wa ta'ala, descendue et révélée d'Allah. Et aussi Allah tabarak wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Et nous avons révélé sur toi, nous avons descendu sur toi ce qui t'a révélé, les tubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, pour que tu expliques aux gens et que tu mettes en évidence aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue aussi expliquer et éclaircir ce qui a été révélé dans le Coran ou dans la sunna. Et on dit que la sunna, c'est une révélation non récitée. C'est-à-dire qu'on ne la récite pas dans la salat. La seule révélation qu'on récite dans la salat, c'est le Coran. La sunna, c'est une révélation aussi. Mais on ne la récite pas, on n'adore pas Allah Ta'ala avec dans la salat. Ça ne veut pas dire par là que la personne n'est pas récompensée quand il récite les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il les lit. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « Et rappelez-vous, ceux qui étaient récités dans vos maisons » comme livre d'Allah et de sagesse. Donc il a dit que le Coran était récité et la sagesse, c'est-à-dire la sunna aussi. Donc la récitation de la sunna, le fait de lire, passer sur les hadiths, la personne est récompensée aussi, comme Allah tabaraka ta'ala dit dans ce verset.
Aidan yajib an nu'min anna Allah lamma dhamina hifza kitabihi fa fi dhimnihi dhamina wa takaffala بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لأن حديث رسول الله بيان لكتاب الله هل هناك مسلم يمكنه أن ينكر أنه يقدر أن يصلي ائتمارا بأمر الله تعالى أقيم الصلاة وأن يؤدي الزكاة ائتمارا بأمر الله آت الزكاة بدون بيان السنة لا يمكن كيف تقيم الصلاة ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب على أمته بقوله المبارك صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي كذلك الزكوات وكذلك أركان الإسلام الخمسة وكذلك جميع الإيمان والإسلام أو أركان الإسلام والإيمان كلها مبنية على فهم أو إفهام النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله ولا يجوز لنا أن نفهم كتاب الله من عند أنفسنا بعيدين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Comme Allah tabaraka wa ta'ala s'est chargé de préserver le livre d'Allah, cela comprend aussi le fait de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la sunna est venue expliquer et détailler ce qu'il y a dans le livre. Donc cela fait partie de la préservation du livre d'Allah que de préserver la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne dit qu'on peut se baser que sur le Coran et non pas la Sunna pour accomplir nos ordres religieux, alors est-ce qu'en se suffisant sur l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala qui dit accomplissez la prière, la salat, accomplissez la salat, la personne, elle saura comment accomplir la salat. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu détailler cela en disant « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et de même pour tous les ordres religieux, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne, le pèlerinage, tout ceci a été rapporté en détail dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même la foi, que ce soit l'iman, la foi en général ou dans ses détails, l'islam, les piliers d'islam, tous les détails de l'islam, toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue expliquer et détailler, appuyer et confirmer le Coran.
فلا يغرنكم قول بعض الطوائف ونحن نقول أنهم ضلوا عن الطريق وهؤلاء مرضى يجب علينا أن نرحمهم ونتفاهم معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه ثم يحتاج إلى الرحم ويحتاج أن ترحمه ويحتاج أن تفاهمه أولئك الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن ويقولون بكل صراحة إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حجة في الدين هؤلاء لم يفهموا القرآن وليسوا أهل القرآن إنما هم أهل التقليد لبعض أصحاب الهوى ويؤكد دائما التقليد بدون الاستناد إلى دليل كان سبب ضلال الأمم كلها وفي أمة الإسلام.
C'est pour cela il ne faut pas se faire tromper par certains groupes égarés qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant qu'ils s'accrochent au Coran et qu'ils s'appellent les Coraniyoun, les gens du Coran. En vérité, ce ne sont pas les gens du Coran car ils n'ont rien compris au Coran, car le Coran nous ordonne de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, c'est les gens de la passion. Et on doit en vérité dire alhamdulillah qu'Allah nous ait préservés de cela, de ce par quoi ils ont été éprouvés, et avoir de la miséricorde pour eux, qu'Allah les guide. Car ces gens, en vérité, ils ont suivi aveuglément des gens qui les ont égarés.
وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني والأحكام كلها حجة في العقيدة وفي الأعمال وقد أخطأ وضل الطريق من فرق باستدلال السنة في استدلال العقائد والأحكام فرق بين الحديث والقرآن فقال الغيبيات وكذلك العقيدة لا يؤخذ إلا من حديث متواتر أو من القرآن أما أحاديث التي لم تبلغ حد التواتر ويأتي تعريفه إن شاء الله إذا مكن الله تعالى فليست حجة في العقيدة وهذا قول ابتدأها الناس بعد خير القرون بعد الصحابة والتابعين وبعد أئمتنا rahmatullahi alayhim. Naam.
Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve et une base sur laquelle on peut s'appuyer en elle-même. Dans tous les points, que ce soit dans les points du dogme et de la croyance ou dans les points de la pratique religieuse. Non pas comme certains qui réfutent cela et qui disent que dans les points des choses, dans tout ce qui concerne les choses cachées et l'invisible, et tout ce qui concerne la croyance, on ne prend que du Coran ou bien de la sunna mutawatira, la sunna qui a été rapportée par un grand groupe. Et il dit, on va l'expliquer, inshallah, si Allah nous permet, qu'est-ce que ça veut dire mutawatir. Et il n'accepte pas, en ce qui concerne la croyance et le dogme, les autres hadiths qui n'ont pas atteint le degré du tawatur. Et ceci, c'est une croyance, une parole, une méthodologie erroné qui a été inventé et innové après les meilleurs siècles de l'islam.
Fa nukhawwifu billah kull man ya'taqid anna as-sunnata aw al-hadith laysa hujjatan fi ad-din mutlaqan والذين يفرقون بين كون الحديث حجة في العقيدة نخوفهم بالله الذي يحاسبهم في أول ما يدخل أحدهم في القبر فيسأل ما دينك وما النبي فماذا جاء بالنبي به النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء بالقرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى من قبل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقد قال المفسرون هنا أطيعوا الله ثم كرر لفظ أطيع وإلا كان من الممكن أطيعوا الله والرسول لكنه قال هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول معناه طاعة الله فيما جاء في كتاب الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه الله تبارك وتعالى في سورة الحديث نعم
Et je mets en garde et je fais peur aux gens de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire cette parole, de délaisser que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le hadith est une preuve en soi et une base sur laquelle on peut s'appuyer dans les choses, dans les points de la croyance et du dogme. Car en disant cela, on a peur pour lui quand il va être dans la tombe. Et qu'il va être questionné, qui est ton Seigneur? Et qui est ton messager? Est-ce qu'il va pouvoir répondre? Car il aura rejeté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que Allah tabarak wa ta'ala a dit, obéissez à Allah et obéissez au messager. Les savants de l'exégèse, du tafsir, ont dit que le fait qu'Allah ait répété le mot obéissez pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas suffi de dire obéissez à Allah et à son messager. Cela prouve qu'il y a une obéissance spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et propre à lui dans ce qui lui a été révélé de la sunna, comme il y a l'obéissance dans ce qui lui a été révélé dans le Coran, qui est la parole
d'Allah. إلى الأقوام ومعلوم أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بعثت إلى الناس عامة فكانوا إذا جاءوا إلى قومهم فربما كان الله تعالى قد أعطاهم كتاب وقد لم يعطهم كتاب لأن في كتاب الله ذكر لأصحاب الكتب وأولي العزم من الرسل الذين أنزل الله عليهم مثل التوراة والإنجيل والزبور وغيرها لكن هناك أنبياء لم يكن وحيهم إلى إرشاد أقوامهم إلا من قبيل الحديث الشريف والدليل عليه قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فكان موسى عليه السلام وهارون أرسل إلى فرعون ولم يعطى التوراة بعد ولما عصوا أمر الرسول الذي هو من قبيل الحديث ينبغي أن تفهموا هذا المعنى الذي هو من قبيل الحديث وليس من قبيل القرآن مثل التوراة إنما هو من قبيل الحديث لما كانت المناظرة بين قوم موسى وبين موسى وبين قوم فرعون وغيرهم وحصل ما حصل من جمع السحرة وغيرها ولما خاف موسى فأخذ قومه وقال إنا قالوا إنا لمدركون والبحر أمامهم وجاء فرعون يتعقبهم وراءهم فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فعبر النهر والنيل وفرعون دخل في البحر أو النهر حتى يعبر مثل موسى فأمر الله تبارك وتعالى فأغرق فرعون فأريد أن أقول إن كل هذا كان بعدما أهلك الله فرعون على مخالفته لما جاء به من عند الله من قبيل حديث رسول الله ثم بعد ذلك آتاه الله التوراة ثم آتاه الله التوراة بعد ذلك فأنا أؤكد أن كل نبي وقومهم كانوا مأمورين بما جاء به الرسول سواء كان من قبيل القرآن صحيفة أو في قبيل من قبيل السنة ف فالذين لا يخافون الله هم الذين يقدرون أن ينكروا أن السنة أو يقرروا أن السنة ليست حجة في القرآن وإذا كان أحد يجد في نفسه هذا الشك فليرجع إلى كتاب الله ويقرأ إن شاء الله ويتدبر يجد أن الله تعالى يؤكد عليك أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به
الحديث C'est-à-dire une révélation qu'Allah Ta'ala a donnée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais que lui parle avec sa propre langue, ce n'est pas propre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes et les messagers avant lui aussi avaient des choses qui ressemblaient à ça, qu'on pourrait nommer comme le hadith, en dehors de la révélation qui était venue en livre, comme la Torah, les évangiles, l'évangile, etc. La preuve de cela... C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « On a donné à Moussa le livre après qu'on ait détruit les premiers peuples. » C'est-à-dire tout le temps avant la destruction de Pharaon et de son peuple, il y avait la révélation pour Moussa, mais il n'avait pas encore reçu la Torah. Donc quelle est cette révélation? C'est une révélation qui ressemble au hadith, mais pour Moussa, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire il leur donnait des ordres, il leur donnait des interdictions, il leur faisait des révélations qui venaient d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui n'étaient pas encore la parole d'Allah comme la Tawrat qui est venue, qui lui a été révélée après. Donc ce qui prouve que le hadith ou le sens du hadith a été toujours une preuve sur laquelle il s'était appuyé même pour les prophètes et les messagers auparavant. La preuve de cela, c'est que cette révélation que Moussa alayhi salatu wassalam a reçue, ça a suffi pour que ce soit une preuve évidente contre Pharaon. Et quand il a refusé, il a été détruit. Donc ça montre l'importance et la grandeur du fait que c'est une preuve. Le hadith en lui-même est une preuve, car ça a suffi pour établir la preuve sur Pharaon, et ça a suffi pour que son peuple soit détruit, sans que la Torah ne soit révélée encore. Alors, alors c'est pour ça que les gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont un doute dans leur cœur ou qui ne comprennent pas, il faut qu'ils reviennent au Coran et ils vont voir plusieurs ordres et ils méditent bien le Coran où Allah tabaraka wa ta'ala ordonne clairement d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Fal Quran ala kulli hal mahfuz la yumkin an yad'i ahad hatta aladdu ada al-islam anna harfan minhu qad saqat wa hadha amrun فرغ منه وحتى أعداء السنة أعداء الدين الإسلام يعترفون بهذا والسنة أيضا على أن الله تبارك وتعالى قال ثم إن علينا بيانه كذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بمقتضى هذه الآيات الكريمة السنة أيضا قد حفظها الله تبارك وتعالى وقيض لها وأعد لها أقواما قاموا بجهود في جمع هذه السنة وتنقيتها من الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ما لا نظير له في تاريخ العالم وتاريخ الإنسانية.
Donc nous savons tous que Allah tabaraka wa ta'ala a préservé le Coran. Chaque lettre du Coran a été préservée. Alhamdulillah, ça même les ennemis de l'islam le reconnaissent. Et ils savent que le Coran, lettre et la lettre, il a été préservé. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui-même qui a dit, c'est nous qui avons révélé, descendu le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, puis c'est à nous qu'incombe de l'expliquer, d'expliquer le Coran. On a vu tout à l'heure que l'explication du Coran elle était par le Coran et par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala a pris en charge de préserver la révélation qui est le Coran et la sunna, et a pris en charge de préserver l'explication du Coran qui est le Coran et la sunna, dans ce cas-là, personne ne peut nier cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala pour cela, il a choisi des gens, des personnes qui ont réuni le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cherché, qui ont détaillé, qui l'ont purifié de tout ce qui a été rajouté ou inventé, et ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité une science et un effort comme celui-ci.
ف فأول جهد الذي قام به لحفظ سنة رسول الله ولطلب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أوعى له من سامع نظر الله دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله وجهه أو وجهه ناظرة وجوه يومئذ ناظرة فطلبا للثواب والأجر وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بحفظه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون هذه السنة كما هو أمر معروف وكان هناك الأكثرون يحفظون فإذا يحفظون سنة رسول الله ثم يكتبون أو يستكتبون جاء ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه معروف أنه من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكتب إلا أنه جاء فيما بعد أنه شك سأل بعضهم أنك رويت هذا الحديث وشكك فيه فقال إن كنت رويت هو متأكد ومتثبت أنه روى لكنه قال إن كنت رويته فهو موجود عندي فدعا في صندوقا له حلق ففتح فيه ففتح الحديث الذي كان مكتوبا عنده ونحن نعرف أن القرآن السنة أيضا مع القرآن كانت تكتب حديث رسول الله كان يكتب وكان الناس يحفظونه وكانوا يبلغونه يبلغون الآخرين أيضا فإذا شك أحدهم في حديث كان يمتنع عن الرواية حتى يسأل الناس ما كيف هو وكيف ألفاظ هذا الحديث هم كانوا يحاولون أن يحفظوا ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك سنوا سنة الرحلات نعم
La base de la préservation de cette sunna, elle a commencé, et, ou alors une des bases plutôt, on peut dire que c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'Allah illumine le visage d'une personne qui a entendu ma parole et qui l'a répétée comme exactement comme il l'a entendue, car peut-être que celui à qui ce hadith va être transmis le comprendra mieux que celui qui l'a entendu. Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ce sont eux qui ont mis en pratique ce hadith. Et qui écoutaient et qui apprenaient et qui regardaient, qui retenaient les différents hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'eux écrivaient, certains d'eux ordonnaient à certains d'écrire après avoir appris, demandaient à d'autres d'écrire pour eux. Et ceci, on en a la preuve dans plusieurs textes. Parmi ceux-ci, c'est que Abu Huraira radiallahu anhu, qui est un des compagnons, le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sûr de ce qu'il transmettait. Et une personne lui a demandé, es-tu sûr d'avoir transmis cela? Il a dit, oui, j'en suis sûr. Mais je vais quand même rajouter de la vérification. Il a dit, amenez-moi mon coffre là-bas. Il avait un coffre, il l'a ouvert. Et dedans, il y avait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit. Et il a cherché et il a trouvé celui qu'il avait transmis. Il a dit oui, j'ai bien transmis ce hadith.
فَالصَّحَابَةُ كَانُوا يَأْتُونَ إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفِدُونَ إِلَيْهِ يَجْلِسُونَ أَيَّامًا وَيَحْفَظُونَ يَأْمُرُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قال وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا عنده 20 يوما ونحن شبابا نتعلم العلم ونصلي بصلاته صلى الله عليه وسلم وكنا شبابا شبابا يعني شاب لم يكونوا كبار السن فلما أن رأنا وكان بنا رحيما رؤوفا صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين فلما أحس صلى الله عليه وسلم منهم أنهم يشتاقوا إلى أهليهم فلما أن رآنا ما قالوا لهم انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبالعالم كله فقال لما أن رآنا أن اشتقنا إلى أهلنا قال سألنا من تركناهم وراءنا فلما أخبرناه قال اذهبوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم يعني العلم الذي تعلمتم وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مالك بن حويرث رضي الله عنه تبليغا لحديث رسول الله كان يذهب ويعلم الناس في المسجد ويقول لا أريد الصلاة إلا أن أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال. ومثال آخر أن الصحابة كانوا يخرجون من المدينة إذا شك في حديث ليتثبت إلى بلدان أخرى، منهم عبد الله بن أنيس الصحابي رضي الله عنه، وعقبة بن عامر، عقبة كان في مصر، عبد الله بن أنيس كان في المدينة وشك في حديث فذهب إليه، اشترى راحلة وذهب إلى بيته في مصر، قال قد سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن غيرنا فيه، خفت أن أنسى فيه فجئت ليتثبت معه، فتثبت معه الحديث وكان كما كان عنده. هذه الرحلة الطويلة من المدينة إلى مصر في تلك الأيام التي كانت الرحلات شاقة جدا كان لحديث واحد فقط. هؤلاء سنوا سنة الرحلات على ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك جاء المحدثون رحمة الله عليهم فنرى العجب الوجاب من رحلاتهم لحديث واحد يسافر أحد من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام ومن المدينة إلى مكة ومن مكة إلى مدينة، وهكذا سنوا الرحلات وكانوا يأخذون السنة ويحفظونها ثم يبلغونها إلى من بعدهم.
Donc les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se suffisaient pas d'apprendre, d'écrire, de retenir, mais ils transmettaient. Et quand ils avaient un doute, alors ils s'arrêtaient jusqu'à être sûrs et vérifiés. Sinon, ils ne le transmettaient pas. Parmi les histoires qui nous ont été rapportées sur la manière dont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont pris le hadith de lui, le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, qui sont venus. Il a dit on était un groupe de jeunes et on est resté 20 jours avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée à apprendre de lui la science et les hadiths. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tendre et doux avec nous. Quand il a vu que notre famille nous manquait, alors il nous a dit de retourner chez nous et de transmettre tout ce qu'on avait appris avec lui, et il nous a dit صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, quand ils sont retournés dans leur peuple, Malik ibn al-Huwayrith, il allait à la mosquée, il dit je vais à la mosquée, mais en vérité je ne veux pas faire salat. Je veux juste montrer aux gens comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait. Donc il venait, il faisait la prière juste pour montrer comment, pour enseigner et transmettre la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat. Parmi aussi ces histoires de comment les compagnons étaient stricts et comment ils faisaient attention à ne pas transmettre ce sur quoi ils avaient des doutes, c'est Abdullah ibn Unais. Il était à Al-Madina et il avait entendu un hadith avec Uqba ibn Amir qui après cela était en Égypte. Donc à son époque il était en Égypte. Et eux deux ils avaient entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se souvenaient qu'il était présent ce jour-là avec lui. Et il voulait être 100% sûr des mots, car les compagnons ne se suffisaient pas d'apprendre le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mot à mot, être sûr des mots et des lettres qu'il y avait dedans. Donc il voulait être 100% sûr de cela, il a acheté une monture exprès pour voyager de Medina en Égypte, juste pour aller vérifier un hadith. Et c'est eux qui ont mis en place cette tradition de voyager pour chercher le hadith. Il a été donc avec Uqba ibn Amir, il lui a dit, tu te souviens, tel jour on était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-moi le hadith qu'on a entendu. Et il a voulu le réécouter de lui. Et après cela, justement, les savants du hadith ont suivi cette tradition et cette bonne tradition. Et ils ont voyagé d'un endroit à un autre, d'un pays à l'autre, des centaines, des milliers de kilomètres parfois juste pour un hadith. Certains de la Syrie jusqu'au Yémen, du Yémen à la Syrie, de la Mecque à Médine, jusqu'en Irak ou en Égypte. Et tout cela juste pour réunir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ولا شك أن هناك ناسا كانوا في عهد التابعين يعني تلاميذ الصحابة وفي عهد تبع التابعين تلاميذ التابعين ناس كانوا تصدوا للفتية وتصدوا لبيان أحكام الناس الذين كانوا يحتاجون إليهم ولا شك أن الذي لم يجمع السنة فيكون فتياه قد يكون فيه خلل وهذا واضح في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا مالك رحمه الله وقد ذكرت في بعض مجالسي أنه سأله أحد الإمام رحمة الله عليه سأله أحد هل على الناس تخليل أصابع الرجلين عند الوضوء قال ليس على الناس تخليل خلال أصابع الرجلين فقال ليس ذلك على الناس كما روى الترمذي ليس ذلك على الناس عبد الله بن وهب من أبر تلاميذ الإمام قال لما انفض المجلس وهذا أيضا نقول من أدب طالب العلم إذا رأى من الأستاذ خطأ لا يصيح مثل الديك أخطأت يقول عبد الله بن وهب لما انفض المجلس فاختليت بمالك في الخلوة وقلت أفتيت بأنه ليس على الناس تخليل وليست هي سنة ولكن عندنا فيه حديث قال ما هو فحدث عن بإسناده عن المستورد ابن الشداد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل بين أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم سبحان الله فمالك رحمه الله ماذا يقول قال لم أسمع به قبل هذا فكل واحد يخفى عليه شيء ثم يقول عبد الله بن وهب ثم رأيت مالكا إذا سئل في هذه المسألة قرأ عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل إن الحديث وجمع الأحاديث من أهم ما يكون في الحقيقة في تصحيح أخطاء الناس في دين الله تعالى لا يمكن أن تخطئ أحدا مهما كان عبد الله بن وهب تلميذ والإمام مالك نجم الإمام كبير جدا معروف شهرته قد اشتهرت في الدنيا كلها دنيا الإسلام في تلك الأيام لكنه مع ذلك قد فاتته السنة ولذلك الذين أنا أريد أن أؤكد ويقولون هذه اللغة دارجة أركز على أن الذين يقولون إن السنة ليست حجة في الإسلام فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من الإسلام في شيء وإن كانوا يحسبون أنفسهم أنهم مسلمون لأنهم يريدون هدم الدين الإسلامي يريدون أن يفهموا ويؤولوا كتاب الله وعندهم سوء أدب مع الله ومع رسوله ومع كتابه يجعلون فهمهم حجة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجعلون حجة هذا في الحقيقة سوء أدب مع الله ومع الرسول ومع الدين ما دين الله تبارك وتعالى نعم
Il faut savoir aussi que les tabi'in, les suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, ceux qui les ont suivis après cela, certains d'entre eux ont pris, on va dire, la responsabilité de faire la fatwa, de répondre et de donner des avis juridiques. Et il est clair, et on a vu, barakallahu fikum, avec le temps, que et même les imams et les savants ont démontré cela, que ceux d'entre eux qui avaient le moins réuni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui avaient le plus de manquements dans leur fatwa ou le plus d'erreurs. Et parmi les exemples de cela, bien sûr, avant de dire cela, tous les imams disait que si le hadith est véridique, alors c'est mon madhhab, alors c'est mon école juridique. Ceci, ils l'ont dit et ils l'ont mis en pratique pendant leur vie. L'imam Malik donnait un cours, il disait aux gens que le fait de passer le doigt entre les doigts de pied des pieds pour se laver les pieds, ce n'est pas une sunna. Alors il y avait son élève Abdullah ibn Wahb assis dans l'assise. Il ne s'est pas levé à crier devant tout le monde: ah cheikh, tu te trompes, comme un coq. C'est le cheikh qui a dit ça, je répète. Il ne s'est pas levé pour dire comme un coq: ah cheikh, tu te trompes. Il a attendu qu'il finisse, il a été seul avec lui, et il lui a dit, le hadith de Al-Mustawrid ibn Shaddad, avec sa chaîne de transmission, comme quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lavait les pieds, il passait avec son petit doigt entre les doigts des pieds. Donc, à partir de là, il a dit, j'ai vu Malik, quand on lui posait la question sur cela, il répondait avec ce hadith. Donc regardez, l'imam Malik, qui est une étoile, un imam parmi les grands savants de l'islam et du hadith, pourtant ce hadith, il ne lui était pas connu. Il ne lui était pas connu. Et ça arrive. Ce n'est pas tous les savants qui connaissent tous les hadiths. Il y a des manquements. C'est pour ça que les savants ont toujours dit à toutes les époques que si le hadith est véridique, alors c'est mon madhab, alors c'est mon école juridique. C'est pour ça aussi, barakallahu fikum, que les gens qui renient que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve en soi, et ils devancent leur raison et leur compréhension sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Celui qui dit que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une preuve en soi. Et ces gens-là, en réalité, ils ont un mauvais comportement et ils, envers Allah et envers son messager. Et ils prétendent mieux comprendre et devancer leur raison à ce qu'Allah Ta'ala a révélé et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit.
ثم الحديث أو الخبر أو الأثر عرفه أو عرف هذه الألفاظ العلماء كلها بمعنى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق وقيل جاء في الخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل جاء في الأثر فعن النبي صلى الله عليه وسلم ونقطة أيضا في هذا الباب الأثر بقي بن مخلد رحمه الله لما كان في الأندلس وهناك قد انتشر تقليد الإمام مالك بشدة لا يسمعون كلام أحد غير كلام مالك رحمه الله فكان بقي بن مخلد جاء إلى الشرق من الأندلس إلى بغداد ودرس على الإمام أحمد وابن معين وغيرهم وغيرهم فذهب هناك بمصنف ابن أبي شيبة كتاب السنة فكان يفتي بالأثر هكذا قالوا في ترجمته قالوا لم يكن يقلد أحدا كان يفتي بالأثر وفي رواية أخرى لما كان يسأل ما مذهبك كان يقول أنا أثري المذهب جريري المذهب جرير الطبري ابن جرير الطبري أيضا كان على كل حال فنقول الخبر والحديث والأثر إذا أطلق فيعنى به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو شمائله حالته كان أنف النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان شعره كذا وكان بشرته ولونه هذا أيضا داخل في الحديث والأثر وكذلك في الخبر لكن فيما بعد فرقوا قالوا الحديث يعني هذا لا مشاحة في الاصطلاح قالوا الحديث إذا أطلق فيعنى به كل هذا وإذا كان الحديث والأثر فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما جاء عن الصحابة والتابعين لا بأس في هذا الاصطلاح فعرفوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جعلها العلماء أنواع في تثبتها كونها ثابتا أو كونها لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قدر الله أن الله عز وجل قد مكن بعض الناس أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وهما شيئا ليس من حديث رسول الله كذلك قد يأتي ناس قد يأتي شخص رقيق الدين ويكون قد ينوي خير فيضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا للترغيب والترهيب وغيره. فهنا العلماء قالوا هذا حديث موضوع ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، إنما كذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه لما مكن الله بعض الناس في هذه الأمور قام العلماء بفضل الله تعالى بالتحقيق والتثبيت سنة رسول الله، ما هو الثابت وما هو غير الثابت. في زمن الصحابة ما كانوا يحتاجون، لكنهم أسسوهم قواعد هذا العلم. نعم.
Quand on entend un hadith ou al-khabar ou al-athar, ça veut dire la même chose. On peut dire hadith ou khabar ou athar. Quand on le dit mutlaqan comme ça, al-hadith, sans dire c'est le hadith de tel. C'est-à-dire qu'on dit al-hadith, le hadith. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou ses actes, ou bien ce qu'il a approuvé, ou bien ses caractéristiques caractérielles, ou ses caractéristiques dans son physique, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, al-hadith. Ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, a approuvé, ou ses caractéristiques caractérielles et physiques. Ça, c'est un hadith. On peut l'appeler aussi khabar. On peut l'appeler aussi athar. D'ailleurs, il a donné un exemple d'un savant qui s'appelle Baqi ibn Makhlab.
Al-Andalusi.
Qui avait étudié à Bagdad avec l'imam Ahmed et l'imam Ibn Ma'in. Et qui avait été après cela en Andalousie. Arrivé en Andalousie, ils étaient très attachés au madhab de l'imam Malik. Tout le monde suivait que la parole de l'imam Malik. Et lui, il est arrivé chez eux avec le Moussannaf d'Ibn Abi Shayba. Et il avait appris le hadith avec ses imams que l'on voit. Et il faisait la fatwa selon le hadith. D'ailleurs, dans sa description, dans sa biographie, il est dit qu'il était athari. C'était un athari. Athari, c'est-à-dire qu'il suit le athar. On a dit tout à l'heure, on peut dire hadith ou khabar ou athar. Ou bien, il dit jariri. Jariri, pourquoi? Parce qu'il est même Ibn Jarir Tabari, qui était bien sûr quelqu'un qui avait rapporté dans son tafsir plusieurs hadiths. Non. Après cela, certains ont vu que quand on dit hadith seul, ça vient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on dit athar, on veut dire par là les paroles ou les actes des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de dispute à avoir dans les terminologies. On peut, auparavant, les trois voulaient signifier ce qui était attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, plus tard, l'Athar, il a été attribué spécifiquement aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'Hadith au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah. Après cela, il y a eu des gens, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit tout à l'heure, ils faisaient très attention à comment ils transmettaient le Hadith. Même aux mots, aux lettres du Hadith. Mais après, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a apparu des gens, ou des gens mal intentionnés, ou bien des gens qui avaient une bonne intention, mais qui avaient une religion faible, des qassasin, des gens qui racontent, des raconteurs pour motiver. Alors ils disent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ils inventent, ou ils rajoutent des paroles dans le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu préserver sa sunnah, et a choisi des gens pour chercher dans cette science-là et rejeter ces hadiths-là. Et c'est ceci les hadiths qu'on dit, un hadith inventé.
فالتثبت والتحقق من أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة. هناك وقائع كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فيها، إذا وقعت الشبهة الآن أنا وأنت وهم وهؤلاء هن، إذا وقعنا في خبر رجل يا أخي هذا حصل تعرفون وكذا، فيسألون، هذا أمر فطري في تحقيق أي خبر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسي في إحدى صلاتي العشي، إما كانت ظهرا أم كانت عصرا، فصلى ركعتين فلما سلم على ركعتين قال ذو اليدين اسمه خرباء وكان يده طويلا فكانوا يسمونه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت نحن نعرف أن الصلاة الظهر وصلاة العصر أربعة فهل صارت الآن ركعتين وأنت صليت ركعتين إن كانت أربع ركعات فأنت نسيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين تحقق صلى الله عليه وسلم يعني ذو اليدين يقول أني نقصت من الصلاة بدل أربعة صليت ركعتين أو نسيت الصلاة جاءت ركعتين بدل أربعة أم أنا نسيت والصلاة هي أصلها أربعة وأنا صليت ركعتين أصدق ذو اليدين أني صليت ركعتين قالوا نعم يا رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم ركعتين الأخريين ثم سجد سجدتي السهو فهذا التثبت والتحقق في مواضع كثيرة وتعرفون أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين التي هي حصان رزان لكن الكفار والمنافقون الذين كان المنافقين الذين كانوا يكونون بالمرصاد دائما وجدوا فرصة فاتهموها بما لا يصبر أدنى الإنسان أنها زنت الرسول صلى الله عليه وسلم سأل فلان ماذا تعرفون ماذا تعرفون عن عائشة سأل الجارية ماذا قالت الجارية يا رسول الله إنها جارية الحج قال علي سل الجارية تصدقك فالجارية التي خادمة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنها امرأة غافلة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن وتأتي الداجن وتأكل يعني هذه غافلة جدا اتهمت بكذب على كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بالتحقق كذلك صحابة رسول الله في وقائع كانت تقع عامة الناس أو عامة الأحيان يقبلون إذا أخبر الصحابي الصحابية ما يشكون لكن إذا وقعت الشبهة في شيء فكانوا يتثبتون هذا عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب الاستئذان باب الإذن ثلاث مرات فجاء أبو موسى العشري إلى بيت عمر رضي الله عنه فدق بابه مرة مرتين وثلاثة ولم يجب فرجع فلما رجع خرج عمر فقال من الذي كان يدق الباب فلما أخبروه قالوا رجع فناداه قال لماذا رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتيني على هذا بمن يشهد له يعني شك ما سمعه هذا وليس بالضرورة يكون سمع كل واحد كل شيء ولذلك جمع والتخريج الآن التخريج الحديث من أهم ما يكون في علم الحديث وعلم الفقه في الحقيقة فنجمع جميع الأحاديث في الباب نستخرج بالمعنى الصحيح فقال عمر رضي الله لتأتينا على ذلك بمن يشهد لك وإلا لأفعلن بك كذا وكذا فذهب في المسجد فهناك صحابة رسول الله فقال سألهم أبي الله هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا قال نعم كل قال غير واحد قد سمعناه قال لا يقوم معك إلا أصغركم أو أصغرهم وهو محمد بن مسلمة فذهب وشهد وقبل عمر رضي الله عنه فأقول ما كانوا يسألون دائما هذا عمر نفسه كان تناوب كما ذكر البخاري في باب التناوب في العلم التناوب في العلم كان يذهب يوما ما يوما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الأنصاري كان يعمل عمل بيته الرعي والسقي أو أي شيء في اليوم ويأتي صاحبه أو يأتي عمر يخبر صاحبه وهو يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لابد من الشاهد كذلك صاحبه اليوم الثاني يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يقوم بأعمال بيته وأعماله هو ويأتي ويخبره هذا باب التناوب في العلم فقصدي من هذا أن صحابة رسول الله إذا وقع في قلوبهم شك كانوا يتثبتون من الروايات وهذا الباب الذي أخذها علماء الحديث فقعدوا لا لهذا العلم
قواعد عجيبة جدا هي من صميم قواعد العقل فضلا أن يكون من الدين. فالدين مع العقل والعقل الصحيح لابد أن يكون مع الدين. فكل واحد يريد أن يتثبت حتى الآن الشرطة والقضاء وغيرهم إذا أرادوا أن يتثبتوا في شيء يسألون ويتحققون، ينظرون الأمارات والشواهد وأشياء. فالآن الحديث كل ما فكرت فيه من هذه الأمور قد أوجد علماء الحديث قواعد آخذين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق سنة رسول الله أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم كذب عليه أحد، أم توهم فيه أحد، وقعت الشبهة تركوها.
Le fait de vérifier les hadiths du prophète صلى الله عليه وآله وسلم, qui a mis en place cela? Le fait de bien vérifier les paroles et de faire attention, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait en premier lieu, puis les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait une des prières de l'après-midi, et après deux rak'at, après deux unités de prière, il a salué et il a été s'asseoir sur un poteau, adossé à un poteau. Il y a une personne qui s'appelle Douliadein. Pourquoi on l'appelait Dhul Yadayn? Parce qu'il avait des grandes mains. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, est-ce que la salat, elle a diminué ou est-ce que tu as oublié? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a aucun des deux. Il a dit, mais au messager d'Allah, tu as prié que deux rak'at. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné et il a demandé aux autres compagnons, Est-ce que Dhul Yadayn dit est vrai? Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi en cela? Il a vérifié l'information. Et ça, c'est toute raison, c'est naturel. Naturellement, quelqu'un, quand il entend une information, il va la vérifier. Ça, c'est chez tout le monde. Déjà, c'est naturel. Dans la raison, déjà, ça se fait. Et là, on voit comment aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue mettre tout ça en place religieusement. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi, ils ont fait cela. Avant de passer aux compagnons, l'histoire aussi de ce que les hypocrites et les mécréants et les gens qui sont malades, ils ont fait sur notre mère Aïcha radiallahu anha, de l'accuser, cette femme pure qu'Allah tabaraka wa ta'ala a purifiée du dessus des sept cieux dans le Coran. Ils l'ont accusée à tort de fornication. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran. Alors, pendant cette période-là, avant qu'Allah ta'ala l'innocente, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vérifié, a demandé, a questionné, jusqu'à qu'ils lui ont demandé à qui je peux demander. Ils l'ont envoyé vers sa servante. Et sa servante, elle a dit, c'est une femme insouciante. C'est pas une femme qui est comme ceci. Et de même, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quand ils avaient un doute, ils vérifiaient. Une fois Omar ibn al-Khattab était chez lui et Abu Musa al-Ash'ari est venu frapper à sa porte une fois, où il a demandé la permission une fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis il est parti. Puis Omar est sorti, il lui a dit, qui a frappé? Qui m'a demandé? Donc ça c'est dans le Bukhari, dans Bab al-Istidhan, le fait de demander la permission trois fois. Qui a frappé? Abu Musa, il a dit, c'est moi. Il a dit, pourquoi tu es parti? Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'on demande la permission d'entrer trois fois. Si après cela, on vous autorise, on entre, sinon on part. Alors Omar, radiallahu anhu, a eu un doute sur cela. Pour vérifier, il lui a dit, ou bien tu m'amènes un témoin, ou bien tu vas voir ce que je vais te faire. Alors Abu Musa al-Ash'ari, paniqué, a été à la mosquée. Et a dit aux gens, qui d'entre vous parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu avec moi ce hadith? Plusieurs se sont souvenus. Et il a pris avec lui le plus jeune Muhammad ibn Maslama. Et ils ont été témoignés, Omar a accepté. Attention, cela ne veut pas dire par là qu'on n'accepte pas la khabar al-ahad, c'est-à-dire l'information d'une personne. C'est juste que là, quand il avait un doute, il a vérifié. C'est tout. Mais plusieurs fois, Omar ibn Khattab acceptait l'information d'une personne. Ça aussi, c'est dans le Bukhari. que Omar ibn Khattab avait un associé avec qui à tour de rôle, ils apprenaient la science avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux était dans le commerce, l'autre était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À tour de rôle, chaque jour comme ça. Et quand ils se sont rencontrés le soir, chacun racontait à l'autre ce qu'il avait entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'a pas demandé une deuxième personne, un témoin. Seulement quand il y avait un doute. Mais tout ceci montre, barakallahu fikoum, qu'il faut vérifier l'information. Et c'est ce que les savants du hadith ont fait. Ils ont mis donc des règles en place basées sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles et les actes des sahaba sur comment accepter les informations et comment vérifier les informations. Et ces règles qu'ils ont mis en place, ce ne sont pas des règles qui sont contradictoires avec la raison, au contraire. Aujourd'hui, tout le monde met des règles en place pour vérifier la véracité d'une information. Même la police, le juge, ils cherchent des témoins, des signes, des indices, n'est-ce pas? Donc ceci aussi, ça a existé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont fait des règles, des lois, des règles avec lesquelles on peut justement chercher et vérifier une information.
فَمَعْلُومٌ بِالْأَقْلِ أَنَّ إِنسَانًا إِذَا جَاءَ مِنَ الْخَارِجِ وَنَحْنُ جَالِسُونَ 100 شخص لا يعرف أحد منا إذا جاء بخبر عجيب أو بأي خبر تصدقونه في حينه لا تصدقونه ما ندري كيف هو هل هو كذاب أم هو صادق أم هو متوهم في الخبر هل كان حاضرا وقت ما وقعت الواقع يخبر هكذا ولا سمع من الثاني والثاني كيف حاله والثالث كيف حاله ومن هنا جاء اصطلاحات أئمتنا رحمة الله عليهم في كون الراوي الذي يروي ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ثقة لفظ ثقة وإن لم يكن ثقة فما دليل ما تعريفه يأتي تعريفه إن شاء الله كذلك إذا كان مجهولا ما نعرفه حديثه ما نقبله لأن الذي ينسب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر حتى إذا نسب إلى أحد من الأفراد فخبر الشخص الذي لا يعرفه لا يعتبره أحد ما ندري كذاب ولا كذا فكيف إذا جاء شخص لا يعرفه أحد ويأتي ويقول أو يخبر اسمه فقط معروف أنه قال كذا فهذا الحديث يسمونه ضعيفا لماذا؟ لأنه لم يثبت بما يثبت به أي خبر في الدنيا بالطريق الذي ينبغي يثبت فلا يجوز لنا أن ننسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون الراوي من يعتمد عليه في حفظه كذلك في دينه لا يكفي أن يكون دينا فقط ولا يكفي أن يكون حافظا فقط فقد يكون حافظا فاسق قد يكون حافظا غير مسلم ويريد أن يدخل على الإسلام والمسلمين شيء أشياء كثيرة تأتي وهذه الآن ما وصلت إلى هذه القواعد أقوام الدنيا كلها إلا بعد مدة طويلة وقد استنبتها علماؤنا من كتاب الله الذي هو فيه إشارة إلى كل علوم الدنيا والآخرة إن شاء الله كذلك من حديث رسول الله فأثبتوا في ما يكون ثابتا مما يقبله العقل السليم عامة الناس فبذلك عرفوا جاءوا بلفظ الثقة لا جاءوا بلفظ مجهول جاءوا بلفظ الضعيف قد يكون هو دينا حافظا لكنه ضعيف الحفظ معلوم 10 أشخاص وهو بينهم ما شاء الله هذا حافظ ولا ينسى وهذا حفظه ضعيف هذه كلها بالسؤال في الناس الذين أو بالناس الذين هم يعيش فيهم فيقررون أنه معروف بأنه حافظ وكيف دينه أيضا يسألون الناس الجيران الذين خالطوا معه وغيره ليس الأمر هين بهذا بدقة دقيقة جدا فإذا وقعت الشبهة لأحدهم في مسألة ما كان يترك حديثه
نعم. Nous savons tous, si nous sommes ici assis 100 personnes et une personne inconnue que personne d'entre nous ne connaît entre et il nous donne une nouvelle, il nous fait une annonce. Est-ce qu'on va le croire tout de suite? On va se poser des questions. Qui est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Est-ce que lui-même il a témoigné ce dont il parle? Ou est-ce qu'il y a des intermédiaires entre lui et les personnes qui ont témoigné de cet acte-là? Qui sont les personnes qui sont intermédiaires entre lui et la situation? Quelle est leur situation? Est-ce que c'est des gens de confiance? Est-ce que c'est des gens qui comprennent? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont bien mémorisé? Tout cela sont des questions qu'on va se poser. Alors comment si dans une parole comme ça qu'on rapporte, on n'accepte pas cela, comment on l'accepterait dans la parole rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de là que les savants ont donné les règles. Qu'une personne, pour rapporter des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il doit être de confiance, de bonne mœurs, fiqa. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas quand dans la chaîne de transmission, il y a un inconnu. Par exemple, quelqu'un, on a écrit juste son nom, mais on ne sait pas qui c'est. Comme on a dit tout à l'heure, si un inconnu, il entre, il dit une nouvelle, on ne va pas le croire jusqu'à qu'on vérifie. Donc là, c'est la même chose. Alors, si c'est un inconnu qui est dans cette chaîne de transmission, on dira qu'il est faible. On dira que ce hadith est faible. Après, la confiance et les mœurs ne suffisent pas pour savoir est-ce que cette personne, elle peut rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut voir aussi sa mémoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une mémoire saine, qui comprend bien les choses et qui mémorise bien les choses? Et ceci, les savants du hadith l'ont fait en faisant des enquêtes. Quand il dit dans la même assise ici, on est 10, tout le monde écoute. Il y en a qui comprend bien, il y en a qui ne comprennent pas, moins bien. Il y en a qui retiennent les paroles exactement, il y en a qui retiennent qu'une partie des paroles. Alors ça se sait comment? En enquêtant, en allant voir tous les gens qui étaient dans cette assise, en leur demandant ceux qui l'ont fréquenté, ceux qui le connaissent, comment est sa mémoire, comment il retenait les cours, comment il écoutait, comment il transmettait, quand il entendait une information, est-ce qu'il la transmettait exactement comme il l'entendait, comment sont ses mœurs, comment il est avec dans sa religion, sa famille. Il demande aux voisins une enquête détaillée. S'il y avait le moindre doute, il délaissait ce hadith. Toutes les communautés qui sont venues des années, des centaines d'années après, pour mettre des règles en place, pour bien reconnaître les indices et la vérité, et reconnaître la véracité des nouvelles, ils ont mis des années, des années après pour mettre ça en place, ces règles-là, alors que les savants du hadith, en se basant sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient déjà mis ces règles en place.
فَهَذَا الْإِمَامُ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهِ حينما يروي في موطئه مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه ومالك أقدم الأئمة الذين ألفوا في السنة ومن قبل ابن جريج الذي كان قبله وتوفي قبله بخمسين سنة أيضا له تأليف ذكروا لكنه ما أجد أقدم ما أجد في تأليف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة نسخة حمام لكن كتابا أشمل ما يكون أو أجمع ما يكون في ذاك الوقت هو موطأ الإمام مالك مالك النافع عن ابن عمر الآن المحدثون ينظرون مالك من هو مالك قد يكون باسمه اشترك ناس كثير لكن هنا معروف مالك إمام دار الهجرة ومعروف في ورعه وتقواه وحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضع عليه نقطة ثقة إمام جليل مثلا طيب نافع هو مولى ابن عمر شيخه نافع مولى ابن عمر مولى يعني هم كانوا يعني قد يكون مولى نوعا لكن أكثر ما كان مستعملا عبد له وقد عاتقه صار مولا له من أسفل يسمونه وعمر مولاه من أعلى سيد فكان يتبعه مثل الظل ويخدمه وهو معروف لدى الأئمة عامة عند مالك قد خبره وصبره ونفسه وثقه فمالك النافع ثم بعد ذلك نافع يروي عن من؟ عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف فكلهم ثقات أثبات معروفين في الحفظ لا توضع عليهم أي نقطة، لكن تجد أن هناك مالك رحمه الله روى عن غير نافع أشياء قالوا هذا مما تفرد به مالك. غرائب مالك فيها بعض المخالفات. انظروا هذا، الأئمة رحمة الله عليهم نخلوا نخلا جيدا وصبروها وحصروا أحاديث الراوي، فمالك يروي النافع. قد يكون مالك ما هو عشرة، واحد اثنين ثلاثة، ليث بن سعد وفلان وفلان رووا النافع، ما زادوا لفظا، مالك زاد لفظ، فهنا يقولون توهم مالك رحمه الله. عشرة أشخاص ما ذكروا لفظ هذه الزائدة، ذكروا حديث في سطرين لكن مالك زاد فيه شيء، والآخرون لم يزيدوا، فهنا قالوا قد يكون مالك توهم رحمه الله. لأن عشرة أشخاص الذين هم ثقات أيضا مصر وليس ابن سعد قالوا لم يكون بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يقوموا أصحابه بخدمة أحاديثه وكذا حتى يشتهر أمره. فإذا كان عشرة أشخاص في جهة ومالك هو الإمام أيا كان بشر، فبذلك قالوا هنا مالك رحمه الله شذ، هكذا يقولون. نافع عن ابن عمر إذا كان وقع مثل هذا أيضا يحكمون، أما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلا يبحث فيهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كأنك تقول لماذا لم يبحث فيهم؟ يعني هم أيضا يمكن يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يمكن، ليس بحب الصحابة فقط، واقع الأمر يدل على هذا. ولذلك اتفق أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في غزواته، في رحلاته، في حجه، وهم أخذوا منه سنة رسول الله. الصحابة لا يتكلم فيهم، لا يأتي أحد ويدرس ويقول كيف كان، هل كان لا سمح الله حافظا، هل كان يعني ثقة أم كان ضعيفا في دينه لا سمح الله. لا، ما يمكن أن نبحث فيها. لماذا؟ لأن الواقع الأمر كل واحد كما ذكر الخطيب البغدادي والإمام الشافعي قال إذا رأينا واحدا واحدا وجدنا أنهم كانوا أتقى لله من أن يكذبوا، وأتقى لله من إذا شك أحدهم فكان يترك الرواية، ما كان إذا شك في صحته، إذا كان لفظان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة أو قال تلك اللفظة، فإذا شك ولم يضبط كان يترك الرواية. الناس يريحون عليه ما كان يروي. ثانيا من حيث الخلق، تعرفون أن أحد الصحابة حصل منه الزنا، والذين يكفرون كل واحد بالكبيرة هذا خطأ. ماعز بن مالك الأسلمي، هذا الصحابي لو لم يأتي في هذه القصة لما عرف، لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه متزوج، والمتزوج في الإسلام عقابه معلوم أنه يرجم ويقتل، لكن مع ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به أحد، ما مسكه أحد يأتي به يا رسول الله هذا فعل كذا وكذا، يعني دينه وإيمانه إلى حد مثل الجبل ما تركه أن ينام مستريحا. جاء بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني لأني تنجست من هذا الإثم أو هذا الذنب، طهرني يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أعرض؟ يعني لعله يكون يعني يأتي وفهم الزنا خطأ ويقول أني زنيت. ثم تنحى في ناحية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء قال يا رسول الله أني زنيت طهرني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في جهة. لو كان جاءوا بالشهود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، لكنه كان فيه مداخل، كان فيه أسباب من الممكن أن يدفع عنه هذا العقاب. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن وجهه، جاء مرة ثانية إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف الزنا؟ تعرف الزنا؟ قال نعم، أتيت من المرأة الأجنبية ما يأتي الرجل ما امرأته وزوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا لست مجنون. هنا القاضي إذا جاءت المسألة لابد لا يتسرع في الحكم، لابد أن ينظر المسألة من جميع جوانبه. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أبك جنون؟ الشخص المجنون ما يقول أنا مجنون، لكن إذا كان الناس يعرفونه ويقول نعم يا رسول الله هذا مجنون نعرفه، مجنون يمكن يعترف بكل شيء، وليس أقل ليس هنا فقط، بل لعله يكون قد شرب خمرا، ولا شك أن هذا إثم، ولكنه قد يعترف بشيء لا يصح اعترافه في هذا الحالة. فأمر بعض الناس أن يستنكه فمه، أي يشم فمه هل شرب خمرا. كل هذا التحقق لما ثبت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه. هذا صحابي الذي ليس مثل أبي بكر، مثل عمر، من أعمة الصحابة، أو إذا قلنا من أدنى الصحابة، لكنه إيمانه ودينه إلى حد مثل الجبل سبحان الله. كذلك امرأة الغامدية قصته معروفة لدى صاحبنا إن شاء الله يترجم لكم، وهو أنها جاءت بهذه الصورة، قالت يا رسول الله عقب علي الحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحقق والتثبت وأنها تذهب وتلد ولدها ثم بعد ذلك ترضع أسمه، وهذه فيه عبر كبيرة جدا. قالت يا رسول الله أنا حبلى منها عقب علي الحد، قال لا، ما دمت حبلى بولد لابد أن تضعي الولد. ذهبت، لو بقي 6 أشهر 7 أشهر، في هذه الحالة اتفق العلماء المعترف إذا كذب نفسه وقول أنا كنت اعترفت بأني فعلت كذا، الآن أقول ما فعلت، ما يقام عليه الحد. يعني في هذه الأثناء المدة الطويلة من الممكن أن يأتيها الشيطان ويقول لا أنكري وتمتعي بالحياة وغيرها وغيرها، ما أنكرت. ولما وضعت ولدها جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرضعها؟ اذهبي أرضعي حتى تفطميه. سبحان الله، شوفوا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال من يرضعها؟ اذهبي حتى تفطميه. فلما فطمته بعد سنتين جاءت وفي يد الولد كسرة من الخبز، قالت يا رسول هذا الولد قد أكل فأقم علي الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتولى أمر الولد؟ إذن ما يضيع هذا الولد، لا يضيع فيه. فولاه النبي صلى الله عليه وسلم الشخص حتى يربيه مثل أولادي، ويكون إن شاء الله هذا عضوا صالحا في المجتمع. فأمر بها فشكت ثيابها، شكت أي ربطت من الجهات كلها حتى إذا جاءت الحجارة أو شيء لا تنكشف. فقصدي من هذين القصتين أن عامة الصحابة بفضل الله تعالى كانوا في زهد وتقوى وخوف من الله تعالى على قسط كبير جدا. فكيف تقول به إيمان أبي بكر، إيمان عمر، إيمان عثمان، علي والعشر المبشرين، الصحابة عامة الذين زكاهم الله تعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الله أكبر. كذلك لقد تاب الله آخر قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب الناس. فمن هنا ليس حبا فقط في الصحابة، إنما واقع الأمر يدل مثل أي شخص نختبره ونختبر حاله نسأل نجده أنه إن شاء الله سليم الفطرة وسليم العقل وسليم كذا. فالصحابة واحدا واحدا إذا رأيته إن شاء الله تجد أنهم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء دور مالك النافع بعده دور ابن عمر لا نبحث فيه، هذا من تقرير أئمتنا رحمة الله عليه. طال عليك. طيب
Cheikh a dit, le recueil le plus connu parmi, quand on dit le premier recueil de hadith, mais en vérité il y en a eu auparavant, d'Ibn Jurayj,
Malik ou Ibn Jurayj,
Abu Jurayra, Qabl Ibn Jurayj,
القصة هي
سهيل لا الموطا ثم قبله كان
ابن جريج وسهيل بن أبي صالح
أيوة سهيل بن أبي صالح سنو أبو هريرة. Donc le premier écrit qu'on trouve qui réunit les hadiths, c'est Suhayl ibn Abi Salih selon Abu Huraira, puis Ibn Rujuraj, mais celui qui a été connu, qui a vraiment le vrai recueil de hadith, c'est le Muwatta de l'imam Malik. Et puis il n'est pas resté des traces en fait des deux précédents. Il est resté quelques traces en fait connues, mais celui vraiment le vrai recueil, le premier recueil de hadith, c'est le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, il est connu la chaîne en or, disent, la chaîne de transmission en or. Malik an Nafi' an Ibn Umar. Selon Malik, Malik rapporte. Selon Nafi', selon Ibn Umar. Maintenant, quand on cherche dans cette chaîne de transmission, on voit que c'est une chaîne de transmission, il l'appelle la chaîne en or, tellement elle est sûre. Malik, c'est un quelqu'un de confiance, au top de la confiance. Et dans la compréhension et dans la mémorisation aussi, pareil. Nafi', c'est Mawla ibn Omar. C'est l'affranchi de Ibn Omar. Un affranchi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était esclave de quelqu'un, puis il l'a affranchi. Mais il est resté à son service comme, on va dire, un ami. Comme un ami. Il le suivait comme son ombre. Il apprenait tout de lui. Et de même, Nafi', c'est un alim, un savant, thiqa, de confiance, au top de la confiance et de la compréhension et de la mémorisation. Quand on arrive, avant d'arriver à cela, donc voilà comment on étudie une chaîne de transmission. L'imam Malik, s'il rapporte un hadith de Nafi', selon Ibn Omar, c'est une chaîne de transmission, comme on a dit, la plus solide possible. Une des plus solides possibles. On dit la chaîne en or. Peut-être que cette chaîne de transmission, elle peut être transmise aussi par 10 autres. Par exemple, Layth ibn Sa'd et d'autres parmi les savants. Si tous, ils ramènent le même hadith, sur le même rapporteur, avec la même chaîne de transmission, le même texte, et juste l'imam Malik, dans son texte à lui, il y a un rajout. Qu'il n'y a pas dans tous les autres textes qui sont de la même chaîne de transmission, avec le même texte. Alors on va dire ça, c'est shadh. Ça, ce hadith, ce qu'il a son rajout, il est shadh, c'est-à-dire il est isolé. On ne l'en prendra pas en considération, car on considérera que tawahama il s'est trompé et il a rajouté ce rajout. Même l'imam Malik, qui est un des plus sûrs, il y a quand même ces vérifications qui sont faites si d'autres rapportent d'autres choses. Donc pour montrer comment la précision de la science du hadith. La précision de la science du hadith. Ça, en ce qui concerne bien sûr tous les gens des différentes tabaqat, des différents stades ou différentes. Comment on dit tabaqat en français? Des différents niveaux, barakallahu fik, je cherchais le mot. Des différents niveaux de rapporteurs. Mais quand on arrive au compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, on ne cherche plus. Pourquoi? Parce que la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est que les savants, les sahaba, les compagnons, ils sont tous dignes de confiance 100%. Et comme a dit l'imam al-Shatibi, comme a dit le khatib al-Baghdadi et l'imam al-Shafi'i, ils ont dit, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tellement dignes de confiance qu'ils ne peuvent pas mentir ou rajouter des choses sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que quand ils ont le moindre doute, ils délaissent de rapporter cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a plusieurs récits de certains compagnons qui ne rapportaient pas car ils avaient ne serait-ce qu'un petit doute. Ils disent ça, c'est notre croyance à nous, les gens de la sunna, et c'est l'amour qu'on porte et le degré qu'on donne aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit maintenant, même si on voulait être objectif, on va dire, ça c'est de l'objectivité, c'est notre croyance. Mais il dit si, on voudrait répondre à certains qui disent vous n'êtes pas objectif, alors on va leur donner des exemples. Que même si à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à certains parmi les compagnons de faire un grand péché, ou certains péchés, mais on va voir que ces gens-là qui sont du commun des compagnons, qui peuvent être parmi peut-être les plus faibles, qu'on va voir leur foi qui était comme des montagnes. L'histoire de Ma'aj ibn Malik al-Aslami. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai forniqué. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête. Il est revenu une deuxième fois devant lui, il dit, j'ai forniqué. Il a tourné sa tête. Il est venu une troisième fois, j'ai forniqué. Ça, de cette règle, les savants ont tiré que la personne qui reconnaît, elle doit reconnaître trois fois, pas une seule fois. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu être sûr. Est-ce que tu comprends ce que veut dire la fornication? Parce que peut-être il s'est dit forniquer, pour lui il l'a pris dans son sens large, il a été faire juste balader avec une femme ou je ne sais quoi. Il a dit non, je comprends, j'ai fait avec une femme étrangère ce qu'un homme fait avec sa femme. Il lui a dit, est-ce que tu es fou? Est-ce qu'il est fou? Il a regardé les gens, ils ont dit non, il n'est pas fou. Il a ordonné à quelqu'un d'aller sentir sa bouche, voir s'il avait bu, pour voir si quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, il dit n'importe quoi. Regardez comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vérifié, être sûr, et ça c'est le juge, il doit être comme ça. Il doit vérifier les preuves, même quelqu'un qui reconnaît, il doit vérifier que c'est quelqu'un qui est apte de reconnaître, qui comprend ce qu'il reconnaît, qu'il ne se trompe pas du tout. S'il y avait eu les quatre témoins qui étaient venus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas fait cela. Mais comme là c'est l'iqrar, la personne elle reconnaît pour elle-même, ces règles-là, elles sont en application. Et puis, quand tous les doutes ont été repoussés, il a ordonné qu'on lui fasse la peine. Regardez cet homme. S'il n'avait pas une foi comme les montagnes, est-ce qu'il aurait venu? Ce n'est pas des gens qui l'ont amené, qui l'ont attrapé. Ce n'est pas des témoins qui sont venus témoigner contre lui. Il est venu offrir sa vie à Allah pour se repentir. Parce qu'il n'arrivait pas à dormir tranquille. Il dit, Ya Rasulallah, Ya au messager d'Allah, je suis impur, purifie-moi. Ça, ce n'est pas une preuve d'une foi comme une montagne, d'offrir sa vie pour Allah. Et d'insister, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tourne la tête, il revient devant lui. Ça, une personne, s'il n'a pas une foi comme les montagnes, et si une fois il tourne sa tête, il dit c'est bon, je lui ai dit, je peux partir. Il est revenu une deuxième fois, il est revenu une troisième fois. Il lui a dit, non, je ne suis pas fou, je comprends très bien ce que c'est. Donc regardez, au contraire, ça c'est pas une preuve que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont faibles, au contraire c'est une preuve de la force de leur foi. La femme al-Ramidiyya, aussi la femme qui avait forniqué, qui est venue s'offrir aussi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était enceinte de la fornication. Elle a dit au messager d'Allah, je suis enceinte après la fornication. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va, il ne lui a pas fait la peine. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enfant. Elle. Et ça, c'est une preuve à répondre à ceux qui disent qu'il est permis d'avorter un enfant de la fornication. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné. Car sinon, il lui aurait fait la peine directement. Il lui aurait fait la peine de mort directement. Le fait qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a préservé. Même si cet enfant, il était à un ou deux mois ou avant les quatre mois. Il lui a dit, va jusqu'à que tu accouches. 9 mois. Est-ce que Shaitan, il ne peut pas venir lui faire un ouest-ouest, lui dire, allez... Et les savants disent que si pendant ces mois-ci, elle aurait dit non, en fait, je ne reconnais pas, je reviens sur mon témoin, sur ce que j'ai approuvé, la peine ne lui aurait pas été faite. 9 mois. Tout ce temps-là, elle a gardé la conviction ferme et elle n'a pas laissé Shaitan venir lui dire non, mens. 9 mois. Elle est revenue avec, quand le bébé est né, elle est revenue d'elle-même. Encore. D'elle-même. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour allaiter cet enfant? Va l'allaiter. 2 ans encore d'allaitement. Jusqu'à qu'elle est revenue après l'allaitement avec un morceau de pain. Le bébé, il avait un morceau de pain dans la main. Encore, il n'a pas fait encore la peine. Il a dit, qui va s'occuper de cet enfant? Qui va s'occuper de cet enfant? Il ne faut pas qu'il soit délaissé comme ça dans la société, perdu. Donc regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a ordonné de bien attacher ses vêtements. La peine lui a été faite et il a prié sur elle. Omar lui a dit, comment tu pries sur elle alors qu'elle a forniqué au messager d'Allah? Il a dit, est-ce que tu trouves quelque chose de plus noble qu'une personne qui a offert sa vie à Allah? Donc les histoires que les gens pourrait rapporter comme quoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait des péchés, c'est une preuve contre eux. Ça prouve qu'ils étaient, ils avaient une grande foi. Car quand regardez comment ils étaient, si ça pouvait arriver qu'ils tombent dans un péché. Donc si ceux-là qui sont du commun des compagnons, parmi peut-être les plus bas des compagnons, ils sont comme ça. Qu'allons-nous dire de Abu Bakr, Omar, Uthman et les grands, les têtes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des versets sur eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Certes, Allah a été satisfait des croyants quand ils t'ont fait acte d'allégeance sous l'arbre. فعلم ما في قلوبهم. Et Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Comment? Si c'était pas des gens pieux. Allah ta'ala, il sait pas ce qu'il y avait dans leur cœur. Allah, il a dit, Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Allah, il a été satisfait d'eux. Et ça, c'est du Coran. De même, dans plusieurs versets, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes, Allah a accepté le repentir des ceux qui ont exilé et des ansars et de ceux qui les ont reçus. Et de ceux qui les ont reçus. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de qui? Seulement des muttaqin, des gens pieux, comme Allah ta'ala dit dans le Coran. Qu'il n'accepte le repentir que des gens pieux. Donc, tout ceci prouve que quand on arrive au degré ou bien au palier, tabaqat plutôt, on aurait pu dire des paliers, au palier des sahaba, alors on ne cherche plus, on accepte leurs paroles.
Summa inshallah, fil majlis al-ati yati dhikr al-isnad, ma yata'allaq bihi inshallah shay'un yumkin nastafid minha inshallah, wa arju an takunu istafadtum, la yakun al-waqt dha'ia.
Inch'Allah,
Allah
fiqh. Il dit Inch'Allah, et puis dans la prochaine assise après le Maghreb, on parlera un peu de la chaîne de transmission, et j'espère que vous avez profité de cette assise, Inch'Allah.